Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. On vous accompagne jusqu'à 9h, mais pour l'heure, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le début de l'année est marqué par le retour de l'inflation. Les prix grimpent en janvier. Cela se ressent sur le caddie, surtout si vous aimez le chocolat, le café ou la viande rouge. Après l'Australie, la France en passe de devenir le deuxième pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les députés ont approuvé le texte hier. Il reste encore du chemin avant son application espérée à la rentrée. Ça n'en finit plus. Les crues en Bretagne sont menacées par une nouvelle perturbation. Trois départements sont toujours en vigilance orange.
Les prix repartent à la hausse en janvier.
Après une légère stabilité dans les supermarchés, comptez 1,7% de plus en moyenne en ce début d'année sur un an. C'est le constat du dernier baromètre LSA Circana, inflation concentrée sur certains produits. Et à la fin, ça pèse sur le ticket de caisse. Reportage à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. Célestin Bougère.
Michael, un expert comptable, sort de ce supermarché, les sacs remplis. Lorsqu'il regarde son ticket de caisse, il est un peu en colère.
Là, on vient de sortir, on a 200 euros de course, on n'a pas la pression d'avoir énormément de choses qu'on a achetées. De quoi manger, un petit peu de produits d'entretien dans la maison, et puis tout de suite, ça monte à 150, 200 euros. Quoi.
Les principaux produits concernés par cette augmentation des prix, la viande rouge, les boissons sucrées, le café, mais aussi le chocolat. Au grand dam de Jean-Yves, un père de famille qui a l'habitude de s'acheter des tablettes.
Le chocolat que j'aime bien, il y a eu une 30 à 40 centimes de différence en quelques mois.
Est-ce que vous achetez toujours cette tablette ou pas forcément?
J'ai voulu l'acheter, mais j'ai eu peur. Finalement, j'ai priorisé les produits des enfants.
Des articles qui tirent vers le haut le prix moyen des produits de grande consommation, d'après Émilie Maillard du cabinet Circana, à l'origine de ce baromètre.
Les tablettes de chocolat, on est quasiment à 20% d'inflation par rapport au mois de janvier 2025. Des catégories où il y a de la tension sur les matières premières, donc le café, le chocolat, la viande de bœuf.
Une inflation qui ne concerne pas tous les articles. Le sucre, l'huile et certains produits ménagers notamment ont vu leur prix baisser en un an.
Une étape majeure. Emmanuel Macron salue le feu vert des députés qui ont voté l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans hier soir à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut aller vite et espère une application à la rentrée. La France deviendrait alors, je vous le disais, le deuxième pays au monde à bloquer l'accès des réseaux sociaux aux plus jeunes après l'Australie. Romain Houg, toutes les plateformes sociales ou presque seraient concernés.
Oui, Snapchat, Instagram ou encore TikTok, seules exceptions, dit le texte, certaines plateformes éducatives ou des messageries comme par exemple WhatsApp. Alors, comment ça va se passer? Bien d'abord, pour s'inscrire à un réseau social, il faudra faire vérifier son âge, soit par reconnaissance faciale, soit par le téléchargement de documents d'identité. Et puis, pour tous les comptes déjà existants, y compris le vôtre, il faudra également procéder à une vérification similaire, tout simplement pour s'assurer qu'un mineur n'ait pas essayé de tricher en créant un compte sous une fausse identité. Mais tout cela est encore loin d'être acté. Le texte doit encore être validé au Sénat dans les semaines à venir. Et puis surtout, il doit être déclaré conforme au droit européen. Et ça, ce n'est pas encore gagné. En 2023, la France avait tenté d'instaurer une majorité numérique à 15 ans. Mais le texte n'avait jamais pu être appliqué pour cette raison.
Et alors que les réseaux sociaux font débat chez les plus jeunes, la Commission européenne ouvre une enquête contre X, anciennement Twitter, et son intelligence artificielle Grok, pour avoir autorisé la génération de photos truquées de mineurs ou de femmes faussement dénudées sans leur consentement. 3 millions d'images explicites ont été créées en décembre dernier. L'heure des réquisitions cet après-midi au procès de Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué à des fins sexuelles la députée Sandrine Josseau. L'ancien sénateur est jugé depuis hier. Il a longuement été interrogé avant la déposition de la plaignante. Guillaume Bier du service police-justice a suivi l'audience pour RMC.
Puis aller voir un ami, le cœur léger. Au fur et à mesure de la soirée, j'ai découvert un agresseur, résume Sandrine Josseau, par moments en larmes lorsqu'elle raconte son calvaire chez Joël Guerriau. L'ex-sénateur, lui, a dû s'expliquer pendant plus de 3 heures à la barre. Entre maladresse et invraisemblance, il raconte qu'il se sentait très mal à cette période, mais refusant les antidépresseurs, il avait obtenu ce sachet de poudre auprès d'un autre sénateur, un euphorisant selon lui. En dépit de son comportement étrange ce soir-là, de ses tours de magie et ses variations d'éclairage, il assure qu'il n'avait aucune intention malsaine à l'égard de Sandrine Josseau et que c'est par inadvertance que la drogue était dans son verre. C'est récemment que Joël Guerriau dit avoir réalisé la gravité des faits. « J'ai été stupide, je m'en veux tellement », dit-il en pleurant, avant d'oser répéter qu'il soutient la députée dans son combat contre la soumission chimique.
Faire de Marseille une vitrine de la lutte contre le narcotrafic, ambition de Mehdi Kessassi. À moins de 2 mois des élections municipales, le militant écologiste de 22 ans, endeuillé par la mort de ses deux frères victimes de trafiquants de drogue, rejoint la liste printemps marseillais du maire sortant Benoît Payan. La Laïta, l'Oust et le Blavet, des noms de rivières et de fleuves bretons qui font la une de l'actualité depuis une semaine maintenant en raison des crues. L'heure n'est pourtant pas au répit. L'Ille-et-Vilaine, le Finistère et le Morbihan restent en vigilance orange ce matin, conséquence d'un nouvel épisode pluvieux attendu sur la région. Après une accalmie, les habitants de Malétroit dans le Morbihan redoutent le retour de la pluie. C'est le cas de Guy, rencontré ce matin par notre envoyé spécial Marion Gauthier pour RMC.
C'est vrai, ils annoncent à nouveau de la pluie jeudi et vendredi, mais j'ai envie de dire, à chaque jour suffit sa peine, et attendons déjà de voir ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'on devrait reprendre une petite remontée des eaux aujourd'hui, mais je pense qu'on ne sera pas tranquille beaucoup avant dimanche. Donc soit on nettoie, mais on sait que ça peut revenir, comme en 2014, on avait dû nettoyer 4 fois. Mais j'espère que là, si la décrue se poursuit, on n'aura été inondé que 2 fois cette année, ce serait bien.
La pluie en Bretagne, le froid et la neige aux États-Unis, 600 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin, conséquence d'une tempête hivernale historique jusqu'à moins 45 degrés par endroit, un froid extrême qui a fait au moins 23 morts. Aux États-Unis, toujours, les agents des services fédéraux vont commencer à quitter Minneapolis ce mardi. Annonce du maire de la ville, théâtre de vives tensions après la mort d'un deuxième manifestant ce week-end tué par la police de l'immigration, et Donald Trump d'amorcer une tentative d'apaisement. Le président ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues, dit la Maison Blanche. Les Français addicts au sport, 72% ont pratiqué une activité physique l'an dernier, chiffre du baromètre Santé Sport que vous révèle RMC ce matin. À titre d'exemple, 13 millions de personnes pratiquent la course à pied en France. Reportage aux côtés d'adeptes du running dans le journal de 8h.
7h07, il faudra une victoire demain pour les Bleus du Hand face à l'Allemagne.
Ce sera la dernière chance de qualification pour les demi-finales de l'Euro après leur défaite hier soir face à l'Espagne, 36-32. La deuxième dans ce tour principal en 2 matchs. Écoutez la réaction du capitaine tricolore Ludovic Fabregas.
On a très mal débuté le match, on a manqué certainement de concentration et d'appétit sur cette rencontre, et on l'a payé cash, hein. Les Espagnols méritent la victoire. Ce qui me dérange, c'est qu'on avait quand même dit que la victoire face au Portugais n'avait du sens que si on était capable d'enchaîner. On l'a pas fait, et on peut pas montrer 2 visages comme ça totalement différents en 2 jours. On n'a pas saisi une opportunité de relancer la machine. Cette défaite, on la mérite aussi et on l'a cherchée, donc tant pis pour nous.
Et la France qui obtient une 8e place pour les épreuves de ski alpin aux Jeux de Milan-Cortina. Une chance à saisir pour Alexis Pinturault. Le triple médaillé olympique écarté de la liste hier devra faire un bon résultat ce soir et demain sur le géant et slalom de Schladming en Autriche. Face à lui, 2 autres Français en lice, Favreau et Muffa Jandé. La bonne nouvelle, c'est qu'à 10 jours des Jeux, la neige est là. D'importantes chutes de neige ont recouvert le nord de l'Italie.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et Thibaut, vous le disiez à l'instant, 72% des Français disent pratiquer le sport 1 à 2 fois par semaine. Vous êtes nombreux à réagir et à témoigner. Joël nous appelle du Pontet, dans le Vaucluse. Bonjour Joël.
Oui, bonjour Apolline.
Joël, super sportif.
Oh non, je vais pas me qualifier de super sportif.
Bah alors racontez-nous, parce que j'ai quand même l'impression que vous marchez, vous courez,
oui,
vous faites
oui,
du vélo.
Voilà. Ben, c'est-à-dire que je pratique la randonnée depuis que j'ai 17 ans, donc ouais. il y a pas mal de temps déjà.
Vous avez quel âge, pardon, de vous poser la question, Joël?
J'ai 63 ans.
Ok.
Ouais, ça passe vite. Et du coup, j'ai toujours aimé la randonnée, j'ai toujours aimé marcher, et en plus de ça, j'ai eu une voiture très tard, donc j'ai pris des habitudes, c'est vrai que je marche beaucoup, et puis en général, j'essaie de marcher en minimum 11, 12 000, voire jusqu'à 20 000 pas par jour.
Ah oui, c'est beaucoup quand même, même dans la vie quotidienne, même quand vous allez bosser.
Bah pour l'instant, disons comme je suis plus ou moins saisonnier, que j'ai pas encore retrouvé pour cette saison, donc on va dire que j'ai du temps. Voilà, donc
d'accord.
J'ai du temps. Je mets à profit pour marcher, oui.
Et vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien?
Voilà,
vous sentez
oui,
que ça vous fait du bien?
Oui. Bah si vous voulez, plus ou moins, le fait de marcher en montagne, ça a été comme une sorte de thérapie.
Ouais.
Voilà, par rapport à une existence un peu compliquée, donc ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Et c'est vrai que marcher, ben j'aime beaucoup, ça me fait.
Mais vous avez parfaitement raison, et je pense que sur le fait effectivement d'avoir l'esprit libre, d'avoir un moment pour soi, c'est aussi important pour le physique que pour le mental. Hein. C'est ce que vous ressentez visiblement, Joël.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis je me déplace en vélo. Voilà, je suis à 4-5 km du centre-ville d'Avignon, donc je n'ai aucun besoin de monter dans une voiture qui en plus est une voiture diesel. Quand je monte dans la voiture, honnêtement, vous savez, c'est pour faire 300, 400, 500 km.
Ouais, c'est ça.
Pas pour aller chercher
Ça n'est que pour les longs trajets, mais c'est aussi une habitude de vie au fond, c'est une habitude, un réflexe de vie. Merci Joël, c'est la première fois que je vous reçois, Joël, non?
Oui, voilà. J'ai une petite remarque à vous faire.
Allez-y.
Oui, voilà. Alors, je suis un petit peu... Enfin, comment vous dire ça, je suis un petit peu gêné par le fait... bon, j'écoute RMC, je connais d'autres émissions, les grandes gueules, tout ça. Je suis un petit peu gêné par ce vouvoiement de façade que vous avez dans l'équipe. Alors que, par exemple, dans les grandes gueules, bah,
c'est tout à fait. Alors, ça m'intéresse. C'est chouette que vous disiez ça, Joël, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Je vais tout à fait vous raconter les coulisses. Évidemment que dans la vraie vie, on se tutoie avec Mathieu, avec Thibaut. Mais c'est vrai qu'on, le matin, c'est le moment de l'information. Il y a quelque chose de plus solennel, un peu plus. Mais vous avez raison, il faut pas que ça intimide. Joël, si vous voulez que je vous tutoie, je te tutoie.
Oui, non. Allez. C'est pas ça, mais par exemple, je me souviens. Vous étiez avec Charlemagnien pendant je sais pas combien d'années. Ouais. Et ce vouvoiement, ouais. C'est vrai que vous êtes connu quand même pour être une station qui est assez,
assez naturelle, assez naturelle, assez franche.
Voilà.
J'y réfléchirai. Franchement, Joël, j'y réfléchirai parce que c'est vrai qu'on se pose régulièrement la question, pour être tout à fait honnête. On se dit que le matin, il y a un côté un peu solennel à réveiller les gens, à être dans l'information avec des horaires très précis, etc. Et qu'ensuite, on est dans un moment un peu plus casual, comme on dit aux États-Unis à partir de 9h. Mais votre remarque, j'en tiendrai compte. Merci beaucoup, Joël, en tout cas. Et bonne journée à vous. Marchez bien. Il est 7h11 sur RMC. On passe de la marche à la voiture, puisqu'on va revenir sur cette question. Le permis de conduire, qui est quand même un sésame indispensable, notamment pour l'emploi la plupart du temps, et bien désormais, il ne sera plus financé par le compte professionnel de formation. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Pour présenter l'association 40 millions d'automobilistes, vous avez même écrit au gouvernement pour dire que c'était pas normal de faire des économies sur le dos, notamment des travailleurs. Ça vous révolte? On va revenir aussi sur les ZFE. Ça devait être interdit officiellement hier, mais de manière assez discrète, le gouvernement a repoussé le vote. On y revient dans un instant et ça vous fait réagir au 32-16. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Financer son permis de conduire avec son compte formation, c'est terminé. C'est ce que vous avez découvert dans le budget 2026. Pierre Chasseret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Votre parti pris ce matin, c'est que le permis de conduire, c'est souvent quand même la meilleure formation pour obtenir un emploi. Et ça a été assez discrètement sorti du budget.
Oui, c'est le diplôme le plus partagé de France. C'est le diplôme qui permet d'avoir un emploi. Vous arrivez à Pôle emploi ou France Travail, appelons-le comme
c'est
on veut.
C'est la première question qu'on vous
pose. Et au final, on avait un moyen pour ceux qui n'avaient pas le permis, mais qui travaillaient, qui cotisaient pour leur compte personnel de formation. Ce moyen, c'était d'utiliser ce compte de formation pour financer tout ou partie du permis de conduire. C'est fini. Maintenant, c'est terminé. Ce sera réservé uniquement aux demandeurs d'emploi. Et il y a quelque chose de philosophique qui me gêne un petit peu. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous bossez, vous cotisez, c'est votre argent, vous l'avez volé à personne, c'est pour votre propre formation, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le diplôme le plus important dans le cadre d'une recherche d'emploi. Ça me gêne quand même.
Le compte personnel de formation, effectivement, comme vous le dites, on cotise, on met de côté en réalité cet argent. Le coût moyen du permis de conduire, aujourd'hui en France, c'est 1500 euros. J'allais dire minimum.
Ouais, vraiment minimum. Ça, c'est le forfait 20 heures. Ensuite, on sait tous qu'il faut un petit peu plus de leçons. Moi, j'ai envie de dire, pour que personne ne soit surpris lorsqu'il arrive à l'auto-école, on est quand même allègrement aux alentours de 2000 euros. Hein.
2000 euros voilà. En moyenne. Est-ce que c'est aujourd'hui un frein pour passer son permis?
Bien sûr, c'est toujours un frein. Un frein. On s'était engagé du côté du président de la République pour le permis moins cher en début de mandat. C'était un engagement solennel du président. Moi, pour ça, j'avais deux solutions. La première était simple. Je n'ai toujours pas compris, Apolline, pourquoi on ne le met pas en place. Le code à l'école, au lycée. Le code de la route au lycée. On est tous sur la route, piétons, cyclistes. Donc le code de la route, il fonctionne pour tout le monde. Comment se fait-il qu'on le passe
et
pas
ça,
au lycée?
Et ça, tout le monde pourrait le passer.
Ça, je comprends pas.
Vraiment, ça ferait partie des examens qu'on passe à l'école. C'était devenu très important, le permis par le compte personnel de formation. Un candidat sur trois au permis utilisait le compte personnel de formation pour pouvoir financer son permis. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un peu de dérive, un peu d'abus?
Mais il n'y a pas de dérive, c'est notre argent, en tout cas, bon, pas le mien, mais celui de la personne qui a cotisé. Il n'a pas volé cet argent. Qu'il fasse cette formation pour l'utiliser au permis de conduire, ou qu'il fasse cette formation pour un perfectionnement en anglais, ou en espagnol, ou peu
importe. Il faut quand même être honnête. On met de côté cet argent, mais l'État met aussi au pot. À la fin, l'État dit quand même que le coût du compte personnel de formation, donc pas seulement la question du permis, c'est 2 milliards d'euros.
Mais alors moi je suis embêté parce que j'avais une autre mesure. La mesure elle était simple, c'était la portabilité du compte de formation, c'est-à-dire permettre pour les familles qui, vous savez, quand vous avez 2-3 enfants qui arrivent au permis de conduire, faites 3 fois 2000, vous allez comprendre ce que ça donne. Donc j'avais une idée, ce qui était plutôt pas mal, c'était de pouvoir transférer ce compte de formation sur nos enfants pour permettre d'alléger le budget du permis de conduire. Peut-être en partie, la moitié, 50%. Voilà quelque chose qui aurait
partager
permis l'accès à l'emploi.
Partager en quelque sorte l'usage de son compte personnel formation.
Donc au final, on se retrouve avec l'inverse, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a plus rien.
On ne peut plus l'utiliser du tout. Question bonus quand même, Pierre Chasseret, les ZFE, la suppression devait être votée, devait passer au vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça a été retiré par le gouvernement. Ils disent qu'on fera ça sans doute après les municipales. Pourquoi ?
Je l'ai en travers, Apolline, parce que là, il vient de se réunir une commission mixte paritaire. Donc on a eu le vote de l'Assemblée nationale qui a tué les ZFE. On a une commission mixte paritaire, des sénateurs, des députés qui ont dit « Ok, on tue les ZFE, zone finie, enterrée ». C'était ça, ZFE. Et au final, en dernière minute, parce que ça ne plaît pas à un membre du gouvernement...
C'est qui ?
En tout cas, je pense que...
Ouais, si vous dites ça, c'est que vous avez bien quelqu'un derrière la tête.
Il me paraît évident que le Premier ministre est totalement impliqué dans cette question.
Et pourquoi
Je ne peux pas imaginer que le président de la République ne soit pas impliqué dans cette question.
Et pourquoi il ne voudrait pas interdire les ZFE?
Parce que c'était le là de la mandature anti-voiture d'Emmanuel Macron. Ce qui me gêne, c'est que là, on vient de faire quoi? Un bras d'honneur au Parlement. Ni plus, ni moins. On a dit aux députés, vous voulez tuer les ZFE? C'est pas grave.
On vous empêche de le faire, quoi.
On va vous empêcher.
Permet pas de pouvoir le voter.
J'ai une bonne nouvelle. Qui en France va vouloir faire un massage cardiaque aux ZFE qui sont mortes? Je pense
absolument personne. Vous pensez qu'au municipal, y compris les écolos, ils ne plaideront plus pour les ZFE?
Je pense qu'il faut être fou aujourd'hui pour remettre en place dans quelques mois une mesure qui remettra une nouvelle fois la France dans la rue.
Et vous n'hésitez pas à réagir, y compris sur cette question des ZFE et du permis de conduire. Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Pierre Chasseret, merci d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pendant ce temps-là, notre historien du matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, les images dénudées créées par l'intelligence artificielle sont dans le viseur de l'Union Européenne.
Oui, et pourtant la nudité n'a pas toujours choqué hein, jusqu'à la Renaissance. On peignait des corps nus sans que ça gêne personne. Et puis un jour, tout a changé. On a voulu se rhabiller.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC. Restez bien avec nous, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, la Commission européenne lance une offensive juridique contre Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et en cause, il y a une fonctionnalité qui déshabille n'importe qui à partir d'une photo.
Oui, un phénomène qui prend une tournure inquiétante. Alors voilà comment ça marche. Vous prenez la photo de n'importe qui et en un clic, Grok transforme la photo de cette même personne, mais en version dénudée. Bon, si vous préférez, l'appli vous déshabille. Même si X assure que cette fonctionnalité a été suspendue depuis le 15 janvier, l'entreprise risque une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial.
Au-delà du scandale évident, on n'a jamais été très à l'aise avec la nudité?
Bah non, hein, c'est un de nos plus vieux tabous. On sait tous que sous nos habits, nous sommes nus. Et pourtant,
ah
on ne veut pas que ça se tâche.
Non, hein, tu ne remarqué. Me dis pas ça.
Et là où ça s'est particulièrement manifesté, c'est évidemment dans l'art. Prenez la Renaissance, un âge d'or de la peinture, hein, avec des artistes légendaires, Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange. À cette époque, on peignait des personnages tout nus et ça ne gênait strictement personne. Puis, à la fin du XVIe siècle, on s'est tout à coup mis à trouver ça complètement scandaleux. Le problème, évidemment, c'est que ça concernait plein de chefs-d'œuvre. Alors évidemment, comment faire? Eh bien, on a décidé de recouvrir tous les sexes masculins.
On a repeint les tableaux?
Exactement, on a repeint les tableaux, Apolline. Au Vatican, par exemple, on engage même un peintre pour cacher les sexes. Ce peintre, il s'appelle Volterra. Et avec un pinceau, il va recouvrir tous les sexes masculins d'une sorte de petit voile, hein, comme une petite serviette. Ce peintre va même avoir un surnom, c'est le grand culottier, puisque finalement, eh bien, son travail consistait à mettre des slips à tous les hommes du Vatican.
Des tableaux ont aussi provoqué d'énormes scandales.
Oui, et un des plus mémorables, c'était en 1865. le peintre Édouard Manet expose un tableau à Paris. Ce tableau, ça s'appelait Olympia. Il représentait une femme nue sur un lit, sauf que cette femme avait existé pour de vrai. C'était un modèle, hein, si vous préférez. Et c'est justement ce qui a scandalisé. On y a vu de la pornographie. En passant devant le tableau, il y avait même des gens qui crachaient dessus et qui menaçaient de le crever avec leur parapluie. Et cette histoire est allée tellement loin qu'on a fini par accrocher le tableau tout en haut du mur pour le rendre inaccessible aux gens qui venaient le voir. Aujourd'hui, ce tableau est estimé à 52 millions d'euros.
Oui, donc voilà.
La nudité, c'est porteur.
C'est une belle vengeance. Il y a aussi évidemment l'origine du monde.
Oui, l'origine du monde, un tableau de Gustave Courbet peint au milieu du 19e siècle et qui représente un sexe féminin en très très gros plan.
En majesté.
En majesté, voilà. Ce tableau, on l'a tous déjà vu quelque part. Mais à l'époque, c'était beaucoup trop scandaleux pour être montré. Donc pendant 122 ans, il n'a jamais été exposé. Il est passé de collectionneur en collectionneur à travers le monde. Il a été en Hongrie, en Russie soviétique. Et il faut attendre 1988 pour qu'il soit montré au public. C'était à New York. Depuis 1995, ce tableau est exposé au Musée d'Orsay à Paris. Et c'est une des œuvres les plus populaires au monde.
Merci Arthur Chevalier, l'historien et amateur d'art d'Apolline Matin. 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Il arrive nu sous ses vêtements.
Salut Arnaud, vous êtes nu sous vos vêtements.
Bonjour.
Dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.
Gabriel Attal, le big boss de Renaissance, enfin futur ex-Renaissance, parce que vous avez vu, il veut encore changer le nom du parti. Après En Marche, La République En Marche et Renaissance, voilà. En fait, ce qui n'allait pas.
Ensemble aussi.
Hein?
Oui, ensemble, il y a eu Ensemble aussi. Ouh là là, on s'est même, on s'en souvient même.
Parce qu'en fait, ce qui n'allait pas dans le macronisme, c'était le nom.
Voilà.
Le reste, ça va, le nom, ça va pas. Il y a d'autres marques, hein, qui ont changé de nom. Par exemple, Raider, qui est devenu Twix.
Ah voilà. Oui, c'est vrai.
Orpea, qui est devenu CNews. une anecdote rigolote. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une marque de voiture qui s'appelait SS?
Non.
C'est vrai, il y avait les SS Cars, les automobiles SS qui sont devenus Jaguar.
D'accord.
C'est une vraie anecdote.
C'est voilà. Mieux quand même.
Vraiment, ouais. Arthur Chevalier. Donc voilà, Gabriel Attal suit le même chemin que Marine Le Pen, changer le nom de son parti pour faire oublier qu'il a été créé par quelqu'un qui a eu un problème à l'œil. C'est la même chose. Je suis pas sûr que ce soit suffisant s'il veut faire une rupture avec le macronisme. Je veux dire, même si son parti s'appelle Les Beaux Gosses du Centrisme, dirigé par Gabriel Attal, c'est le nom de Gabriel Attal, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Les gens vont s'en souvenir, en fait. Faudrait que lui aussi il change de nom, qu'il vous le dise à l'interview. Gabriel Attal, bonjour. Madame, je ne m'appelle plus Gabriel Attal.
Ah oui ?
J'ai changé pour un nom plus classe. Appelez-moi Jean-Paul Rouselier. Non, appelez-moi Max Power. Non, tiens, appelez-moi Kalash le régulateur. Ça, ça sonne bien. D'accord, alors Kalash le régulateur, vous êtes candidat. Non, en fait, j'ai changé d'avis, je m'appelle DRH du bloc. Ça, c'est cool.
Ah ouais.
Donc, le nouveau nom de Renaissance, vous savez ce que ce serait ?
La Nouvelle République.
La Nouvelle République, mais ça existe déjà, la Nouvelle République. C'est un journal. Donc, il va probablement aller à autre chose. Je choisis, alors, le Rassemblement du Mouvement Citoyen, le RMC. Merde, ça s'est pris
encore aussi.
Bon alors, le mouvement ouvrier, social, citoyen, antiraciste et très organisé, le Moscato. Mais ça existe aussi déjà, ça. Donc ce soir, il organise sa nuit de la Nouvelle République au Palais Brongniart avec des tables rondes, des débats. Et alors parmi les tables rondes, c'est vrai, ce soir, il y a un vrai débat intitulé « Faut-il tout péter pour refonder la France ?»
Ouais. Voilà.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Voilà, mais les centristes, ils ont déjà tout pété. Le droit du travail, la dette, nos espoirs en l'avenir. Macron doit être désespéré. Il veut tout péter. Mon fils spirituel est devenu un voyou, un punk du centrisme. Ben oui, maintenant je m'appelle le spectre du bitume et je vais tout casser en m'excitant, en écoutant du Vianney. Allez, envoyez le champomy. On va voir tout ça avec Kalash le régulateur à
8h30. Alias Gabriel Attal, il est 7h27. A tout de suite pour la météo, le journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des installations de fortune, une nouvelle mousse installée peu de temps avant l'incendie, les dernières révélations dans l'affaire de Cran Montana et cet enregistrement qui contredit la version donnée par le patron du bar aux enquêteurs. Amine Kessassi, candidat au municipal à Marseille, aux côtés du maire sortant Benoît Payan, et puis plus de 4 Français sur 10 vont au travail, même quand ils sont malades. Un choix qui n'a rien de vertueux sur le long terme.
de nouveaux éléments accablants dans l'affaire de Crans-Montana.
Près d'un mois après l'incendie qui a fait 40 morts dans un bar de cette petite station suisse, on en sait plus ce matin sur ce qu'ont déclaré les patrons de l'établissement face aux enquêteurs la semaine dernière, et notamment Jacques Moretti, libéré sous caution samedi. Le gérant assure qu'il n'y avait aucun problème avec la mousse acoustique qui a pris feu le soir du Nouvel An. Une version mise à mal, Romain Houg, par ses échanges téléphoniques et vidéos que BFM TV s'est procuré.
Oui, ce sont des vidéos envoyées à peine deux semaines avant le drame par Gaëtan, l'un des serveurs blessés dans l'incendie, à son patron Jacques Moretti. Vidéo dans lesquelles le jeune homme installe la mousse acoustique au plafond en essayant de la faire tenir avec un système D étonnant. Des queues de billard surmontées de paquets de serviettes. Certaines plaques se décollent du plafond. Peu convaincu, il envoie la vidéo à Jacques Moretti qui lui répond par un message audio.
Ouais, Gaëtan, essaye d'en enlever une, tu vois si ça tombe, parce que j'ai mis une mousse, mais une mousse que je connais pas. Donc dis-moi si c'est bon. Dis-moi si elle tombe ou pas.
Des mousses que je ne connais pas, dit le propriétaire, pourtant devant les enquêteurs la semaine dernière, alors qu'il était interrogé sur la dangerosité du produit. Jacques Moretti répond ne pas avoir vu de contre-indication à l'installer. Il assure même avoir fait un test en brûlant la mousse à l'aide d'un chalumeau. Le seul truc qui m'a dérangé, dit-il, c'est la fumée. Il y en avait vraiment beaucoup. Sinon, rien ne m'a choqué, a-t-il certifié aux enquêteurs.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h32 et c'est un atout de taille pour la campagne des municipales de Benoît Payan à Marseille. L'actuel maire a été rejoint hier par le militant Amine Kessassi, figure de la lutte contre le trafic de drogue qui a emporté directement et indirectement ses deux frères, dont le plus jeune Mehdi, qui a été abattu en pleine rue en novembre dernier. Et il l'a dit hier, il veut faire de Marseille une vitrine de la lutte contre le narcotrafic.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on porte. Ce qu'on porte, c'est de faire Marseille de la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic en matière d'accompagnement des familles victimes. On va être la ville qui va accompagner toutes ces mamans endeuillées. Ça, c'est évident, je veux m'engager, je veux porter des choses, je veux être aux côtés de celles et ceux qui font. Et puis, sur la question de la peur, de quoi voulez-vous que j'ai peur ? On a déjà tué mon petit frère, on a déjà assassiné, brûlé, calciné mon grand frère Brahim. De quoi voulez-vous que j'ai peur ?
7h33, c'est une étape majeure, se félicite Emmanuel Macron ce matin après l'adoption cette nuit de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et du téléphone portable dans les lycées. Le texte arrivera au Sénat dans les prochaines semaines. Vote salué également par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. C'est son groupe parlementaire qui est à l'origine de cette proposition de loi. Et ce soir, le chef des députés Ensemble pour la République va faire un pas de plus dans la course à la présidentielle en réunissant intellectuels, élus locaux et partenaires sociaux, Sébastien Krebs.
Oui, l'agenda se précise et il accélère même. Il y a cette soirée de réflexion ce soir avec diverses personnalités, Michel-Édouard Leclerc, Alain Finkielkraut, Marie-Lise Léon, une première pierre. Mais Gabriel Attal mise surtout sur l'après-municipal, des élections qu'il semble enjamber et pour cause il sera difficile pour les macronistes de revendiquer beaucoup de victoires. Alors au lendemain du scrutin, il sortira son livre, annoncé comme très personnel, et il envisage de se déclarer candidat avant l'été. Le Parti Renaissance va aussi changer de nom. C'est devenu son agence de com', raille Elisabeth Borne. Preuve que l'ancien Premier ministre doit encore rassembler son camp. Les gens ne savent plus comment on s'appelle ni ce qu'on défend, pointe une macroniste historique. Gabriel Attal, lui, veut assumer un droit d'inventaire sur les deux quinquennats, mais certains de ses alliés craignent que le sparadrap Macron soit encore difficile à décoller.
Et je poserai justement la question à Gabriel Attal puisqu'il est mon invité à 8h30 dans le face-à-face tout à l'heure.
Apolline, vous êtes fidèle au poste ce matin malgré un gros rhume, comme 43% des Français qui, selon une enquête Obera, travaillent même quand ils sont malades. Vous l'avez constaté à Marseille, Anna Jojard, mais cette conscience professionnelle n'est pas sans conséquence.
Quand il tombe malade, Nathanaël décide d'aller chez le médecin ou non en fonction de l'intensité de ses symptômes.
Si j'ai un petit rhume, un truc comme ça, bah j'y vais quand même, je prends un Doliprane, je prends un petit truc. Mais par contre, quand je suis trop malade, je fais un arrêt de travail.
L'arrêt de travail, Maha Caissière fait tout pour l'éviter et ne pas perdre des jours de salaire.
Vitamine C et je vais au travail. Parce qu'il y a 3 jours de carence et quand on a un rhume, c'est toujours 3 jours. 3 jours, on n'est pas payé quoi en gros.
Même chose pour Sabrina, infirmière, qui avoue avoir déjà travaillé dans un état plus que fébrile.
Avec mes antibiotiques, que ça, parce que je pouvais pas me permettre de rater le boulot parce que c'était pas pris en charge. Au niveau salaire, comment on fait ? C'est la crise, le moindre sou, c'est le moindre sou.
Mais travailler malade n'est pas sans conséquence pour ses collègues et pour soi-même, explique Saïd. Saïd Ouichou, médecin généraliste.
En continuant à travailler, il va s'exposer à des risques, il va surtout contaminer ses collègues. Les gens, quand ils nous arrivent, ils sont très malades, parfois pour certains dans un état d'épuisement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter.
Et le risque de l'épuisement, selon ce médecin, c'est qu'il peut mener au burn-out et donc à un arrêt de travail beaucoup plus long.
En ski alpin, une dernière carte à abattre pour Alexis Pinturo qui n'a pas été sélectionné parmi les 7 skieurs français qui participeront aux prochains Jeux d'hiver. Mais une 8e place surprise a été allouée aux Bleus hier soir et les dés sont relancés. On y revient dans le journal de 8h.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Pure Atlas. L'outsider, c'est le 12, Cameron.
C'était le journal d'Élise d'Angers, 7h36 sur RMC. Jérémy nous a appelé au 3216 du Nord. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Jérémy, vous vouliez réagir à ce permis de conduire qui ne pourra plus être financé par le CPE, le compte personnel de formation. Vous avez fait comment vous, Jérémy?
Alors, moi en fait, il y a 6 mois, j'ai donc utilisé ce CPF pour passer mon permis.
Ouais.
Et donc j'ai fait mes 20 heures. Là, on me demande de prendre au moins, au minimum 10 heures, et il va falloir que je paye tout de ma poche parce que là, directement sur les sites, on peut même plus, on ne peut plus faire de devis pour les auto-écoles, on ne peut plus rien faire en fait.
Ah oui, donc vous avez encore des sous sur votre CPF?
Ah oui, j'ai plus de 3000 euros sur mon CPF.
Simplement,
donc,
simplement, on vous bloque, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le permis.
Voilà, c'est ça.
Non,
donc
mais
moi,
ça...
professionnellement, ça va même me bloquer dans mes
évolutions. Vous faites quoi dans la vie, Jérémy?
Je suis agent logistique.
D'accord. Et vous allez comment au travail aujourd'hui?
Là, actuellement, je vais en vélo, mais bon, je compte évoluer professionnellement, donc me déplacer un peu plus loin. Et donc, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir que je dépense, que je paye des heures à gogo.
Non, mais ce qui est effectivement rageant, c'est de voir que vous avez 3000 euros sur le compte et que vous pouvez pas les débloquer.
Voilà, c'est ça.
Et vous allez les utiliser pourquoi, du coup, ces 3000 euros en plus?
Ah, pour faire une formation au Glory, peut-être?
Ouais, non, mais c'est ça, c'est, en fait, c'est ridicule. Vous avez besoin d'une formation, vous étiez déjà dedans, et ça vous bloque. Bon, essayez de vous concentrer beaucoup pour faire moins de 10 heures. Peut-être 5 heures de plus.
On va essayer, on croise les doigts.
Faut pas perdre de temps entre les différents cours. C'est mon seul conseil. C'est celui que je donne à mon fils. Voilà. Faut les enchaîner, les cours. Faut faire que ça, et hop, vous en faites tous les jours pendant une semaine, et ensuite, tac, le permis. D'accord, Jérémy?
Pas de soucis.
Vous nous appellerez quand vous l'aurez eu?
Il n'y a pas de soucis.
Allez, on croise les doigts pour vous. Merci Jérémy, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Il est
7h38. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et vous l'avez constaté sur le ticket de caisse, ça repart à la hausse. Je parle bien sûr des prix à la consommation, plus 1,7% en janvier. C'est le baromètre Circana que vous publiez cette semaine. Yves Puget, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le magazine LSA qui est spécialisé dans la consommation. On va regarder avec vous ce qui monte. Et surtout, comment les Français s'adaptent? Quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent pour faire leurs courses intelligemment? Est-ce que nos habitudes ont changé? Est-ce que vous, qui nous écoutez, vous consommez différemment? Je vous attends au 32-16 pour venir nous raconter ce que vous mettez ou ne mettez plus dans le caddie. Il est 7h39, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et sur RMC Story. Au secours, l'inflation revient. Vous l'avez peut-être constaté en allant faire vos courses, 1,7% en janvier. C'est ce que vous révélez avec l'Institut Circana. Yves Puget, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la consommation. Plus 19% sur le chocolat, plus 27% sur le café. Des hausses, un peu plus mesurées, mais tout de même sur la viande rouge, sur les boissons sucrées. Comment on explique ce retour de l'inflation?
J'ai envie de dire, il y a ceux qui pensaient qu'on allait vers de la déflation et il y a ceux qui ont toujours dit que de toute façon, on garderait un peu d'inflation. L'important, c'est de ne pas retrouver les taux d'inflation lorsque c'était quasiment 20% en un an et demi. On est sur de l'inflation raisonnable. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la matière première, contrairement à ce que tout le monde croit. Dans un produit, il y a également le transport, la fabrication, l'emballage et les salaires. Donc c'est l'ensemble de tout ça.
L'ensemble de tout ça, on va essayer de regarder précisément produit par produit. Un produit de consommation courante pour tous les Français, le café. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que mon paquet de café, je prends toujours le même depuis des années, il a doublé en réalité en 4 ans. Il a quasiment doublé en 4-5 ans.
Ça doit être vrai, oui.
C'est
dur, mais ça doit être vrai, parce que je bois aussi beaucoup.
Quand on dit 27% sur le café, ça s'ajoute aux années précédentes. Je vous dis, moi, il est passé de 2 euros à 4 euros.
Oui, alors j'avoue ne pas connaître par cœur le cours du café, mais je vais vous donner l'exemple du chocolat. Le chocolat était en 2019 à 2 300 $ la tonne. C'est monté en 2024 à 11 000 $. C'est retombé à 4 600 $. Donc oui, ça a baissé, mais c'est encore plus haut qu'en 2019. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, il y a le cours du chocolat, du cacao, au moment où l'industriel achète le produit, et il y a le cours au moment où l'industriel le vend au distributeur. Et entre-temps, il a pu se passer 6 mois.
Alors, donc, avant de donner des cours, conseils à ceux qui nous écoutent, un point quand même sur quelques baisses, parce qu'il y en a. Il y a des baisses sur le sucre, sur les huiles et sur certains produits ménagers. Vous confirmez ?
Je confirme.
Donc la ça, farine, pourquoi ça baisse alors que les autres montent ?
Parce que les marchés ne sont pas les mêmes, parce que la demande n'est pas la même. Si on va sur la viande rouge, par exemple, qui continue de monter, il y a un problème de cheptel en France. Le cheptel a diminué. C'est une des explications.
Moins. Nos agriculteurs produisent moins. Ils s'en plaignent d'ailleurs. Ils aimeraient bien produire plus, mais ils disent qu'on leur met des bâtons dans les roues.
Et le coût de la nutrition pour les animaux a augmenté également. Donc ça pose un souci. Donc le problème, c'est que tout le monde veut une solution, j'ai envie de dire simpliste, pour dire c'est pas raisonnable. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'explications et on est dans un monde très complexe.
Sur chaque, effectivement, secteur, j'allais dire, il y a des explications différentes. On est en plein dans les négociations commerciales, c'est jusqu'au 1er mars, entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Est-ce qu'on sait un peu la tendance de cette année ?
Bah, la tendance, et j'ai envie de dire la première tendance est la même depuis 50 ans, c'est que c'est tendu. Ça, c'est la première tendance. Après, je pense que ça sortira avec un petit peu d'inflation, parce qu'il y a encore des coûts qui augmentent, mais avec de grosses disparités. On le voit dès ce mois-ci, les chiffres que vous avez énumérés, effectivement, il y a des baisses à moins 5 et il y a des hausses. Donc il va y avoir des écarts très importants entre
comment
les baisses.
On s'y retrouve ? Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent pour pouvoir effectivement maîtriser les coûts?
Alors, le premier conseil, les Français commencent à l'adapter depuis quelques années, j'ai envie de dire, au moins depuis le Covid, et c'est une très bonne chose, commencer par moins gaspiller. C'est la première chose. Il y a des aliments qui sont dans votre réfrigérateur, ils peuvent encore se consommer, il suffit de les recuisiner. Le moindre gaspillage est déjà la première source d'économie. Après, c'est la comparaison, et on voit de prix, et on voit des Français qui zappent de plus en plus entre formats. Avant, ils étaient assez monolithiques, c'est-à-dire...
Ils reprenaient toujours les mêmes produits, oui, voilà, caddie après caddie.
Et c'était leur magasin. Aujourd'hui, le ticket moyen est de plus en plus faible et les fréquentations de plus en plus importantes. Pourquoi ? Parce que les Français hésitent à faire un chariot complet. Je rappelle tout simplement que le taux d'épargne...
Donc on préfère y retourner plusieurs fois, voilà, mais pour des plus petites quantités.
On est un petit peu effrayé de temps en temps par le prix d'un chariot complet.
Vous évoquez le taux d'épargne. Kat nous dit, je ne sais pas comment font les gens pour épargner. L'inflation, ça n'arrête pas une seconde. J'arrive pas à mettre de côté. Pensez aux familles monoparentales, nous dit Kat. J'ai Lily qui nous écrit, j'achète des paniers anti-gaspi. Je consomme moins de viande. Beaucoup de messages nous disent ce matin, moins consommer de viande, en tout cas de viande rouge, le veau, l'agneau, ça reste assez cher. On se reporte sur le porc et la volaille. J'ai Romuald qui nous dit, on nous dit de consommer français, de s'habiller français, de prendre notre pain chez le boulanger. Mais tout ça, c'est devenu impossible, nous dit Romuald. Et puis Olivier qui nous dit, bien entendu, que l'inflation revient. Ça n'a si peu baissé. En fait, faut regarder les prix au kilo, nous rappelle Olivier. Et là, vous constaterez les hausses concrètement.
Et par contre, il y a un retour de la qualité. Le bio, qui était vraiment dénigré par les Français parce que trop cher et finalement pas si intéressant, revient progressivement.
Progressivement et même certains fortement, il y a des enseignes bio qui sont à plus 10. Mais je vais vous donner une mauvaise nouvelle, la ménagère de moins de 50 ans a été tuée il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une moyenne du français. Vous avez des Français qui sont vraiment dans la difficulté. Ceux-là, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut répondre à leurs problématiques. Il faut répondre par des produits d'appel pas trop chers parce qu'ils ont vraiment des problèmes de fin de mois. Mais c'est pas le cas de tous les Français. Il y a un autre tiers des Français, bah, ils achètent un petit peu plus de marques de distributeurs, ils vont un petit peu moins dans une enseigne de centre-ville.
Mais ils ont aussi les moyens de se faire plaisir ou de prendre des produits de qualité.
Et il y a un tiers des Français, et il faut quand même le dire, ils n'ont pas de problème de fin de mois.
Donc c'est ceux-là, magasin aussi de s'adapter.
Ceux-là, ils se remettent vers de la valorisation, vers des produits sains, vers des produits bio, etc.
Un mot aussi sur le carburant. Ils repartent certes à la hausse depuis le 1er janvier de 4 à 10 centimes, mais sur un an, ils sont quand même clairement en baisse.
Ils sont en baisse pourvu que ça dure, parce que ça pèse lourd dans le panier des ménages et ça rentre maintenant totalement dans les dépenses contraintes. C'est aussi ça qui est, je veux dire, difficile à comprendre, c'est que les dépenses contraintes ont fortement augmenté.
l'essence, mais également donc les loyers, le gaz, l'électricité, les abonnements à je ne sais combien de chaînes de télé ou téléphoniques, et ces dépenses contraintes, ben après on dit il reste plus rien et on dit que c'est l'alimentaire qui a augmenté.
Et une question aussi sur les habitudes du e-commerce, c'est-à-dire faire ses courses sur internet, se faire livrer. Moi, j'ai constaté que ça me permettait de effectivement de faire des plus petits caddies, c'est-à-dire que je fais plus attention quand je choisis sur internet ou sur une application du téléphone que quand je suis dans les rayons et que du coup je suis tentée de prendre davantage. Est-ce que ça, quand on voit que 30% des dépenses désormais c'est par internet, c'est aussi l'habitude des Français?
Mais internet, notamment pour l'alimentaire, vous ne succombez plus à la tentation.
Voilà.
Il n'y a plus le produit d'appel que vous allez prendre, le produit d'impulsion. Et effectivement, donc vous allez gagner sur les produits d'impulsion. Après, je suis pas sûr qu'il y ait exactement autant de promos. Donc, est-ce que vous allez y gagner dans tous les systèmes promotionnels qui, dans la grande distribution, sont toujours très complexes à comprendre?
Réponse donc aussi le 1er mars à la fin de ces fameuses négociations commerciales qui ont lieu en ce moment. Merci de nous avoir aidé à y voir plus clair. Yves Puget, vous êtes le directeur de la rédaction du magazine LSA spécialisé dans la consommation. Il est 7h50 et pendant ce temps-là, notre voix de gauche vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, un peu d'optimisme ce matin. Les Français sont fiers de leur pays et ça vous réjouit.
Ils sont très fiers de leur pays. Ils sont très fiers d'être Français. Et on va en parler en détail.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 et vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, Cécile Duflo, mais d'abord le bonus, Mathieu, Robbie Williams qui bat encore des records.
Ah, et l'occasion de réécouter quelques-uns de ses tubes. À 51 ans, il vient de publier un 16e album, ça s'appelle Britpop, le 16e de la carrière de Robbie Williams. J'insiste sur le 16 parce que c'est pas un détail. Il devient cette semaine le premier artiste à atteindre les 16 albums classés numéro 1 des classements officiels britanniques. Et ce faisant, il ne dépasse pas n'importe qui. Les Beatles et leurs 15 pauvres petits albums numéro 1. Pour un Anglais, battre un tel record, c'est pas rien. Un album hommage à la Britpop, la musique anglaise, la Britpop des années 90, Oasis, Blur, Pulp. Robbie Williams qui bat des records depuis ses débuts avec le boys band Take That. Et le compteur qui tourne toujours.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et comme tous les mardis, la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Rebonjour Cécile. La France est un pays fragmenté, c'est ce qu'on entend souvent, mais c'est une idée reçue d'après vous.
Oui, la France se pense divisée, on a entendu tout un tas de chiffres, mais la réalité, c'est qu'il y a une très grande enquête qui a été menée par Destin Commun, 3000 personnes interrogées, plus plein d'entretiens, et qui montre des résultats très concrets. 93% des Français sont fiers de nos paysages, 92% sont fiers de la gastronomie et du patrimoine historique, 87% de la langue, des arts et des traditions régionales.
Donc les Français sont fiers d'être Français.
Exactement, sont même fiers d'être Français eux-mêmes, ils le disent très largement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est toutes les générations, c'est toutes les sensibilités politiques, c'est vraiment très très partagé. C'est plus de 8 personnes sur 10 qui sont fiers d'être Français.
Si on décortique, est-ce que c'est vraiment la même façon de le ressentir dans chaque génération, chaque groupe français?
Oui, et puis pour dire les choses, le sous-entendu de tout ce débat sur la fracture française, c'est que les gens qui sont de familles issues de l'immigration seraient un peu différents. Et ils ont donc décortiqué entre ceux qui ont un parent étranger, même pas un grand-parent, un parent étranger, et ceux qui n'ont pas de parent étranger. Et bien là, les chiffres sont exactement les mêmes, mais vraiment à un point près sur cette fierté et cet attachement au patrimoine français. Et c'est tout à fait pareil quand on regarde les moments historiques. Les moments historiques qui sont les moments les plus importants pour les Français, c'est d'abord la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite, et c'est là que c'est intéressant, ce sont de grandes avancées sociales. C'est la création de la sécurité sociale et c'est les lois pour les droits des femmes. Voilà ce que les Français considèrent comme les événements historiques les plus importants. Et puis pour le reste, les Français font du sport, vous en avez parlé déjà ce matin et vous allez continuer à en parler, et notamment la moitié ont fait un sport collectif et plus de 60% des Français participent aux fêtes de leur village et de leur quartier.
Donc c'est des moments aussi ensemble et collectifs. Pourtant, quand on entend effectivement dans certains médias, mais y compris certains chercheurs, qui nous parlent de l'archipélisation, ce serait caricatural?
Je pense que c'est très caricatural et que paradoxalement, ça renvoie aussi et ça alimente le fait que les Français ont le sentiment d'aller dans la mauvaise direction, d'être divisés, parce que justement ces chiffres-là, cette façon de raconter la France, bah, ça crée un sentiment d'insécurité. Alors que si on enlève ce filtre politique et qu'on s'intéresse aux Français eux-mêmes, on voit bien qu'ils se sentent finalement assez unis. Mais il y a une explication dans cette enquête qui peut peut-être expliquer pourquoi on aboutit à ce résultat de mécontentement par rapport à la situation, parce que quand on demande aux Français de définir ce qu'ils sont, ils répondent à 92% râleurs.
Ils sont lucides, les Français.
Et ensuite, juste quasiment à égalité, bon vivant. Mais là où c'est drôle, c'est que si on leur demande si ça s'applique à eux, ils se définissent pas comme râleurs, c'est
non,
50%.
C'est les autres.
Exactement. Et donc, en fait, le vrai patrimoine que les Français ont en commun, c'est l'humour. Ça se voit sur les films préférés des Français, tous sans exception, toutes les générations, ce sont des comédies. Ce sont des comédies, et notamment pour les moins de 35 ans, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Bah,
je pense
oui.
qu'on peut pas faire une meilleure synthèse de la France.
J'ai d'œuvre.
Donc, à tous ceux qui pensent que la France est un pays divisé et fracturé, j'aurais envie de leur répondre. Viens me le dire de profil si t'es un homme.
Cécile Duflot, il est 7h55. Demain, ce sera La Voix de Droite. Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h. Et c'est une exclusivité RMC. Cécile en parlait à l'instant. 3 Français sur 4 font du sport régulièrement. Garder la forme, se sentir bien. On a rencontré des amateurs de la course à pied, notamment. Et puis, côté météo, Géraldine nous le dira, c'est une journée encore très pluvieuse. On va aussi parler économie juste après le journal avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
L'or, définitivement, un métier, un métal précieux.
Et oui, il bat tous ses records. Alors, est-ce qu'il faut continuer à en acheter? Est-ce qu'il faut continuer à en acheter? Si vous voulez en acheter, comment on fait? Et puis, si vous en avez et que vous voulez vendre, comment vous faites aussi?
Tous les conseils du docteur Le Chypre, ce sera juste après le journal de 8h. Il est 7h56, restez bien avec nous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.